RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. Et Gaëtan Plenet pour le journal. Le rendez-vous est donné à midi, heure locale sur la rive asiatique d'Istanbul.
Pour poursuivre la marche vers le pouvoir, dit l'opposition turque qui appelle à se mobiliser 10 jours après l'arrestation du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu. On est en direct d'Istanbul dès le début de ce journal. Au moins 1000 morts et plus de 2000 blessés. Bilan encore très provisoire du séisme qui a secoué la Birmanie hier. Bangkok aussi a tremblé, provoquant notamment l'effondrement d'un bâtiment de 30 étages en construction. Des dizaines d'ouvriers sont toujours piégés sous les décombres. À suivre également Israël, qui a repris ses bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, la Guinée, où l'ex-président Moussa Dadis Camara a été gracié. On parlera aussi de l'inquiétude du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui annonce une baisse de 40% de son financement cette année. Et puis, c'est la journée internationale des nuages aujourd'hui. Si, si, c'est important. On vous expliquera pourquoi.
Après une pause de quelques jours en Turquie, les manifestants doivent reprendre du service ce samedi.
Une nouvelle mobilisation d'ampleur attendue à Istanbul à l'appel du CHP, le parti du maire Ekrem İmamoğlu. Voilà 10 jours qu'il a été arrêté, incarcéré pour corruption et depuis démis de ses fonctions. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul avec Bertrand Eclair au moyen technique. Un rassemblement, je le disais, donc prévu à la mi-journée et le CHP, le principal parti d'opposition en Turquie, espère qu'il sera massif.
Oui, c'est l'objectif du CHP après cette pause de plusieurs jours dans la contestation, la volonté de faire de cette manifestation une grande démonstration de force face à Recep Tayyip Erdogan. Le rassemblement doit débuter à la mi-journée et à la différence des précédentes manifestations, il n'aura pas lieu sur la rive européenne aux abords de la mairie d'Istanbul, mais dans un parc de l'autre côté du Bosphore. Changement de lieu et d'horaire également, puisque jusqu'à présent, les manifestations avaient lieu en début de soirée. Le CHP a sans doute voulu changer de stratégie pour éviter les risques d'affrontement entre manifestants et forces de police, maintenir la pression de la rue sans donner le prétexte aux autorités pour accroître encore la répression du mouvement.
Oui, car du côté du pouvoir, il y a clairement la volonté de décourager par tous les moyens les manifestants pro-opposition.
Oui, avec près de 2000 arrestations depuis le début du mouvement et les premières peines de prison requises par le parquet, jusqu'à 3 années de prison pour participation à une manifestation illégale et refus d'obéir à un ordre de dispersion. Les premières condamnations pourraient être prononcées rapidement et pour l'opposition, cela montre que le gouvernement veut intimider les manifestants et décourager par la peur tous ceux qui voudraient descendre dans la rue pour défendre l'ancien maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. C'est pour cette raison que ce rassemblement sera décisif. Le CHP espère montrer au pouvoir qu'en dépit de cette répression, le rapport de force peut s'installer dans la durée et que le mouvement ne s'éteindra pas de sitôt.
Merci Daniel Valo en direct d'Istanbul. On va suivre avec vous cette nouvelle journée de mobilisation.
La barre des 1000 morts franchie en Birmanie.
Et c'est visiblement loin d'être définitif après le violent séisme d'hier. L'Organisation mondiale de la santé craint une crise humanitaire et sanitaire très grave dans ce pays déjà à genoux après 4 années de guerre civile. La junte au pouvoir a appelé la communauté internationale à l'aide. L'Inde a déjà envoyé un avion chargé notamment de nourriture et de couverture.
Et à plus de 1000 kilomètres de l'épicentre, Bangkok aussi a tremblé.
Une dizaine de victimes pour l'instant dans la capitale thaïlandaise, mais là aussi c'est très provisoire alors que des dizaines d'ouvriers sont bloqués sous les décombres d'un gratte-ciel en construction qui s'est écroulé sous l'effet des secousses. Des dégâts ont été signalés sur plus de 2000 bâtiments de la ville, alors les autorités ont déployé plus d'une centaine de spécialistes pour évaluer les risques d'effondrement. C'est nécessaire, nous dit l'architecte Patrick Coulombelle, cofondateur de la Fondation Architectes de l'Urgence.
Les gens sont traumatisés quand un événement comme celui-là arrive, donc il y a un vrai traumatisme. Donc la manière de régler ça, c'est d'envoyer des gens qui sont des experts, qui connaissent la construction et qui vont être capables de déterminer, ne serait-ce que par une expertise visuelle de l'ensemble des bâtiments, savoir si effectivement ils ont été touchés et si... il y a des problématiques particulières des bâtiments, ce qui est possible avec des séismes comme celui-là, mais de manière assez modérée parce qu'on est relativement loin de l'épicentre. Plus on est loin de la zone de faille, plus c'est les bâtiments de grande hauteur qui vont souffrir. Donc c'est la partie supérieure des bâtiments de grande hauteur en fonction de la résonance des bâtiments. Donc on est plutôt vigilant sur ces parties supérieures. Par contre, les parties inférieures, on les regarde spécifiquement lorsqu'on est très proche de la zone de faille, qui n'est pas le cas en Thaïlande. Ça fait partie du rôle de gens comme nous, c'est d'aller sur le terrain et puis d'expliquer aux gens ce qui s'est passé au niveau des bâtiments de les rassurer, le cas échéant, de faire évacuer les bâtiments si les bâtiments, on estime qu'ils sont dangereux.
Des propos recueillis par Kristina Petkova, et en attendant d'être sûre de pouvoir rentrer chez elle sans risque, près de 400 personnes ont passé la nuit dans les parcs publics de Bangkok, restés ouverts sur ordre des autorités locales.
Le gouvernement libanais est responsable du désarmement du Hezbollah.
C'est ce que dit la porte-parole du département d'État américain. Pour elle, si les bombardements israéliens ont repris hier dans la banlieue sud de Beyrouth, c'est parce que le Hezbollah avait lui-même violé le cessez-le-feu quelques heures plus tôt en envoyant des roquettes vers Israël, qui a donc répliqué, bien que le mouvement libanais ait nié toute implication. Au moins 3 morts et une quinzaine de blessés dans ces frappes israéliennes, les premières dans la banlieue sud de la capitale depuis la trêve de fin novembre. Correspondance à Beyrouth de Paul Ralifé.
Le Hezbollah a été le premier à réagir aux tirs de roquettes depuis le Liban sud vers la Galilée. Le parti chiite a affirmé qu'il n'était pas impliqué dans cet incident et a réitéré son engagement à respecter le cessez-le-feu. Une fois n'est pas coutume, les dirigeants libanais lui ont fait écho. À Paris, où il était en visite officielle, le président Joseph Aoun a déclaré que tout indique que le Hezbollah n'est pas responsable du dernier tir de roquette. L'armée libanaise a de son côté annoncé avoir localisé au nord du fleuve Litani la position d'où sont parties les 2 roquettes tirées vers la Galilée. Elle a ajouté qu'Israël avait pris comme prétexte cet incident pour violer d'une manière flagrante la souveraineté du Liban et la sécurité de ses citoyens. Le premier ministre Nawaf Salam a pour sa part condamné les frappes israéliennes contre des civils et des zones résidentielles où se trouvent des écoles et des universités. La prudence des dirigeants libanais intervient quelques jours avant une visite à Beyrouth de l'émissaire américain Morgan Ortagus, qui fait pression pour une normalisation des relations entre le Liban et Israël et réclame le désarmement du Hezbollah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Ukraine, au moins 4 morts et une vingtaine de blessés à Dnipro, dans le centre-est du pays, après des frappes attribuées à la Russie. Elles ont visé plusieurs immeubles et provoqué un incendie.
8 mois après sa condamnation à 20 ans de prison, Moussa Dadis Camara, gracié.
Celui qui a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009 avait été condamné en juillet dernier pour crimes contre l'humanité. Dans les massacres du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry, au moins 156 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Moussa Dadis Camara est donc gracié pour des raisons de santé, apprend-on dans un décret lu à la télévision nationale hier soir. Au Malawi, les près de 60 000 réfugiés du camp de Dzaleka sont en danger de famine sévère. C'est le Programme alimentaire mondial qui a tiré la sonnette d'alarme hier, affirmant que dès le mois de mai, il pourrait ne plus être en capacité d'aider ces personnes en cause de sévères coupes dans son financement cette année, moins 40% au total par rapport à 2024. Et pour le PAM, ça menace directement l'état de santé de près de 13 millions de personnes déplacées, Magali Lagrange, dont plus de 6 millions d'enfants.
Une crise sans précédent, selon le Programme alimentaire mondial. La baisse alarmante des financements s'ajoute à un nombre record de personnes dans le besoin. 58 millions d'entre elles risquent de perdre une aide vitale, estime le PAM. La crise du financement humanitaire est exacerbée par des dépenses publiques de santé en baisse dans les pays d'accueil, prévient pour sa part le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Conséquence, une augmentation du risque d'épidémie, de malnutrition, de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale. Les effets se font déjà sentir dans plusieurs pays. En République démocratique du Congo, le budget santé du HCR a été réduit de 87% par rapport à l'an dernier. Les conséquences sanitaires de la baisse des financements pourraient être dévastatrices, prévient l'agence onusienne. Les établissements de santé sont débordés, confrontés à une grave pénurie de personnel médical et de fournitures. Des cas de choléra ont été enregistrés. Autre pays touché, l'Éthiopie. Les opérations de nutrition dans 7 sites de réfugiés de la région de Gambela ont dû être fermées le mois dernier. Le manque de financement menace de plonger 80 000 enfants de moins de 5 ans dans une situation potentiellement mortelle.
La précision signée Magali Lagrange.
Aux Philippines, Rodrigo Duterte a eu 80 ans hier.
Et l'ex-président les a fêtés en prison. Arrêté le 11 mars dernier, il était visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa violente guerre anti-drogue menée pendant sa présidence. Au moins 6 000 personnes avaient été tuées. Ce serait plutôt entre 12 000 et 30 000 selon la CPI. Alors en attendant d'être jugé, il dort en prison, mais ça n'a pas empêché ses partisans de se réunir pour célébrer son anniversaire. 200 manifestations hier dans tout le pays et même dans plusieurs autres régions du monde, avec partout l'intime conviction que le sort réservé à Duterte est injuste et illégal. Reportage à Manille de Nemo Lecoq James.
Duterte manque à la fête. Ici, il y a des ballons qui volent, un groupe de musique de rock venu performer et même des chants d'anniversaire. Même si le protagoniste, enfermé dans une cellule à La Haye, ne pourra pas venir souffler ses bougies, fêter sa 80e année est une manière pour ses partisans de demander à nouveau sa libération.
C'est vraiment pour l'amour de notre ancien président, Rodrigo Duterte. Nous croyons vraiment en lui, c'est la démocratie et nous voulons le ramener ici.
Dans cette salle, comme sur les réseaux sociaux, des milliers de partisans se basent sur la fausse théorie selon laquelle l'ancien président est détenu à La Haye en toute illégalité. C'est l'une des nombreuses fake news qui circulent dans le pays depuis son arrestation. Mais les défenseurs des droits humains ne comptent pas se laisser faire. À quelques minutes de scooter de là, une autre foule s'est aussi réunie pour fêter l'anniversaire de Duterte. Chapeaux pointus et gâteaux d'anniversaire sont aussi mis à l'honneur, mais pour une autre raison.
On est ici à protester le jour de son anniversaire, car nous voulons lui souhaiter une longue vie à l'intérieur de la prison de La Haye.
À quelques semaines des élections de mi-mandat, la population philippine est plus polarisée que jamais. L'arrestation et la détention de l'ancien président sont devenues un enjeu électoral clé. Némolocoque James Mani, RFI.
Et puis Gaëtan, on a parfois la tête dedans, à défaut d'avoir les pieds sur terre, ils sont le symbole des rêveurs, mais ils sont bien plus que ça.
Quatrième journée internationale des nuages ce samedi. Une journée pour sensibiliser le public à l'importance de la protection des nuages et à la nécessité de les inscrire comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Car oui, eux aussi ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, Stéphanie Schuller, les scientifiques le constatent avec inquiétude depuis plusieurs années. La couverture nuageuse de notre planète est en baisse.
Cela fait au moins 10 ans que les données satellitaires de la NASA montrent une baisse constante de la couverture nuageuse, notamment au-dessus de l'Atlantique et des tropiques. Cette évolution concerne avant tout les nuages bas, qui jouent un rôle particulièrement important, souligne le climatologue Robert Votard.
Les nuages bas renvoient le rayonnement solaire. Lorsqu'on a moins de nuages bas, ce rayonnement solaire peut pénétrer dans l'atmosphère et se stocker sous forme d'énergie dans les océans et dans l'atmosphère.
Ce qui pourrait expliquer une partie de l'emballement des températures. Les plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle ont été dépassés pour la première fois l'an dernier. Les chercheurs tentent maintenant de comprendre ce qui cause la raréfaction des nuages. Pourrait-elle être causée justement par la hausse des températures ou par la diminution des aérosols dans l'atmosphère, comme les gaz d'échappement des navires?
Tout le problème de la physique du climat, c'est que lorsqu'on perturbe le système, on a des effets secondaires partout. Certains sont très bien compris, d'autres beaucoup moins. Sur les nuages, on a encore beaucoup d'incertitudes dans nos modèles.
Mieux connaître le comportement des nuages sera l'une des clés pour affiner les prédictions climatiques.
À Stéphanie Schuller, des nuages, mais un rayon de soleil dans les studios d'RFI avec vous, Julien Coquel-Rouen.
Ah, merci Gaëtan Plenet. Très bonne journée à vous. Il est 7h13 en temps universel. La suite sur la radio du monde, c'est un nouveau point sur l'info africaine dans tout juste 17 minutes et tout de suite la revue de presse. Et avec vous Catherine Potet, le tour de la presse internationale à la une, le tremblement de terre en Birmanie et en Thaïlande.
Les photos d'immeubles effondrés dans un nuage de poussière sont à la une de très nombreux journaux. Un violent séisme frappe la Birmanie. Selon les experts, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de milliers de morts, annonce le New York Times. Alors que le Guardian à Londres a recueilli le témoignage d'un habitant de Mandalay, la deuxième ville de Birmanie, qui raconte « Un hôpital s'est effondré sous mes yeux comme une gaufrette qui s'effrite dans un gros nuage de poussière, comme dans les films. » Le principal journal thaïlandais, le Thai Rat, souligne que la Chine et la Russie sont unis pour envoyer de l'aide à la Birmanie. À Pékin, le Global Times publie la photo de secouristes casqués en combinaison rouge, la première équipe de secours internationale à arriver en Birmanie, selon le journal. La presse russe se fait aussi l'écho de la catastrophe. Le quotidien Moskovski Somolets a interrogé un expatrié russe vivant en Birmanie, selon lequel les moines bouddhistes interpréteront la destruction des temples comme un signe. Les moines favorables au gouvernement diront que c'est un signe pour mettre fin à la guerre civile et entamer des négociations, estime cet expatrié qui ajoute « L'opposition et les moines qui la soutiennent diront que c'est une punition pour le gouvernement. »
À la une également, le reportage du journal israélien Haaretz sur un berger palestinien.
Le quotidien d'opposition raconte qu'après des années de harcèlement violent de la part des colons et des troupes israéliennes, un berger palestinien de Cisjordanie a abandonné. Il a décidé de laisser aux colons les pâturages auxquels il était habitué sur les pentes des collines voisines. Ce berger s'appelle Bani Mania. Il y a 2 semaines, poursuit Aretz, les colons lui ont volé 47 moutons et la police n'a rien fait pour lui restituer son précieux bien. Après des années passées dans la vallée du Jourdain, il a abandonné son métier de berger, son univers et sa source de revenus et sa vie au grand air. Aujourd'hui, sa famille vit dans un appartement dans la ville d'Akraba et ses moutons sont dans un enclos. Aretz fustige l'aide scandaleuse de l'armée et l'impuissance tout aussi scandaleuse de la police qui ont permis aux colons de triompher une nouvelle fois par la violence dans cette vallée du Jourdain. Une région sans loi, ajoute le quotidien israélien.
En France, à présent, un procès pour féminicide qui fera date, Catherine.
C'est le procès du mari de Shaïnès Daoud, brûlé vive devant chez elle par son mari violent et paranoïaque qui voulait la punir d'un amant imaginaire. Il a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité, explique le Parisien. À l'audience, l'homme a assuré regretter son geste. « Je l'aimais », a-t-il déclaré, sans s'excuser. Ce procès a aussi mis à jour les manquements de la police. Shaïnès avait de nombreuses fois signalé les violences et le harcèlement dont elle était victime. Un mois et demi avant sa mort, elle avait déposé une nouvelle plainte contre celui qu'elle cherchait à quitter, plainte mal enregistrée par un policier qui venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale, précise le Parisien qui conclut. L'enquête administrative a pointé ultérieurement toute une série de défaillances.
Enfin, une question, verra-t-on bientôt des compétitions sportives où le dopage est non seulement autorisé, mais même encouragé?
Eh bien, c'est Die Welt qui met la question à l'ordre du jour grâce à Donald Trump et à 2 investisseurs d'origine allemande. L'idée d'un méga événement sportif où le dopage est explicitement autorisé fait son chemin. Les partisans voudront battre des records du monde et les participants, pardon, voudront battre des records du monde et gagner des millions. En quelque sorte, les jeux du dopage, ironise le quotidien allemand, les premiers jeux olympiques sous stéroïdes, précise Die Welt, pourrait avoir lieu dès l'année prochaine aux États-Unis.
Et ça laisse rêveur. Merci Catherine Potet, très bonne journée. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Que nous apprennent les crottes de dinosaures publiées dans la prestigieuse revue scientifique Nature? L'analyse des excréments fossilisés de dinosaures nous permet de mieux comprendre comment ces animaux sont devenus prédominants sur toute la Terre.
Dis-moi ce que tu as mangé et je te dirai qui tu es. Le paléontologue Martin Kvarnström de l'université d'Uppsala en Suède et son équipe ont fait de surprenantes découvertes en analysant des centaines de fossiles d'excréments, mais aussi des résidus de vomi fossilisés de dinosaures mis au jour en Pologne et datés de 200 millions d'années, soit précisément la période fin du Trias, début du Jurassique, qui a vu l'ascension des dinosaures. Pourquoi un tel essor de ces animaux pendant des millions d'années? Comment les dinosaures sont-ils devenus prédominants sur Terre et pendant si longtemps? Comment expliquer un tel succès évolutif? C'est pour le comprendre que le paléontologue suédois n'a pas hésité à mettre la main dans les bromalites. C'est ainsi qu'on appelle ce matériel digestif fossilisé. Ces restes d'excréments et de vomi, jusqu'alors négligés ou jugés anodins, révèlent à qui sait les faire parler, selon des techniques de pointe récentes révèlent non seulement ce que mangeaient les dinosaures, mais aussi comment leur alimentation a évolué au cours des millénaires et des millions d'années et comment ils se sont adaptés à tous les changements climatiques et à toutes les extinctions d'espèces.
Comment ces chercheurs ont réussi à faire parler ces bromalites et qu'ont-ils trouvé?
C'est avec toutes sortes de microscopes, Julien, que les chercheurs ont analysé ces restes digestifs fossilisés de dinosaures et notamment avec la technique de microtomographie synchrotron, un accélérateur de particules pour voir en détail l'intérieur des fossiles. Ils ont aussi utilisé des solutions chimiques pour inspecter le contenu exact de ces restes et ils ont été très surpris par leur découverte. Comme l'explique le paléontologue Martin Kvarnström à mon confrère Joël Ignace de Science et Avenir, surpris de voir des scarabées entiers par exemple parfaitement conservés depuis 200 millions d'années avec leurs pattes et leurs antennes, ou des morceaux de dents écrasés appartenant aux proies de dinosaures consommateurs d'os. Ce qui a aussi frappé ces paléontologues, spécialistes des dinosaures primitifs, c'est l'énorme diversité et variété de plantes retrouvées dans ces restes digestifs fossilisés. Et surtout le charbon, que les dinosaures ingéraient en grande quantité, probablement pour détoxiquer leur contenu stomacal, d'où le vomi, et qui montre leur capacité à manger tout et n'importe quoi. Et c'est bien ce régime alimentaire aussi diversifié, cette capacité d'adaptation des dinosaures à tous les changements climatiques et aux extinctions d'espèces, qui expliquerait leur succès évolutif à nul autre pareil, et leur prédominance par rapport aux autres espèces d'herbivores, tous beaucoup plus spécialisés. Dis-moi ce que tu as mangé, je te dirai comment tu vas évoluer. Le très long règne des dinosaures se lirait donc en partie dans leurs excréments, dans ces bromalites que les paléontologues tout terrain commencent juste à décrypter pour éclairer le passé des dinosaures, mais aussi notre futur, celui des grands mammifères terrestres, capables ou non d'adapter leur régime alimentaire au changement climatique et à une moindre biodiversité, en rappelant juste que les dinosaures, eux, ont eu des milliers d'années pour évoluer, comme le montre l'analyse de leur crotte fossilisée depuis 200 millions d'années.
Jusqu'où va la science ? Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, Jennifer, une chronique qui va ravir les fans de Nintendo.
Jeudi dernier, la marque a retransmis en live son événement Nintendo Direct pour présenter ses nouveautés. Entre les lancements de jeux et les changements qui annoncent l'arrivée de la Switch 2, voici le débrief du Nintendo Direct. Une bonne vingtaine de jeux arrivent sur Nintendo Switch cette année, je vous ai fait une sélection des annonces les plus marquantes. D'abord, les fans de Disney seront servis avec l'annonce de Disney Vilain Café Enchanté. Il était une fois un jeu de gestion d'un café dont la clientèle se trouve du côté obscur des méchants de nos Disney favoris. Ursula, Gaston, Isma, Maléfique ou encore Docteur Facilier attendent qu'on leur serve bien plus que des boissons chaudes. Vous y fabriquerez d'étranges potions aux effets variés qui auront un impact sur la suite du jeu. Disney Vilain Café Enchanté est d'ores et déjà disponible sur les stores.
On continue avec le retour d'un jeu bien connu des anciens, Jennifer.
Nintendo vient d'annoncer Metroid Prime 4 Beyond, un jeu d'action-aventure à la première personne où on incarne un héros portant un costume intergalactique. Ceux qui connaissent le jeu savent que ses développeurs avaient marqué leur époque en annonçant à la fin que sous l'armure se trouvait en vérité non pas un héros mais bien une héroïne du nom de Samus Aran. Dans ce nouvel opus qui sortira en 2025, la chasseuse de primes va embarquer pour une nouvelle mission. Si vous avez envie d'un jeu bien rétro où vous pourrez combattre en incarnant des super-héros comme Spider-Man, Captain America, Storm ou encore The Flash, Marvel Cosmic Invasion est fait pour vous. Seul ou à deux, vous pourrez faire un saut dans le temps avec ce jeu de combat en 2D développé par le studio français Dotemu, à l'origine notamment de Streets of Rage, et de l'autre studio Tribute Games. Ce jeu s'adresse principalement aux fans de ce qu'on appelle les beat'em all, donc des jeux où vous ferez face à un nombre important d'ennemis. Beaucoup de jeux intéressants, hein. Nintendo a également annoncé Pokémon Legends ZA, bientôt disponible pour tous ceux et celles qui ne les auraient pas encore attrapés. Mais également Witchbrook, une école de magie tout en pixel art, Tamagotchi Life et Plaza, High on Life, les trois éditions de Monument Valley, le retour du jeu Patapon pour ceux qui s'en souviennent, Star Wars Overdrive, Saga Frontière 2, Story of Seasons et bien plus encore.
Qu'en est-il des annonces de la Switch 2, Jennifer ?
Alors ça, c'était les annonces de sortie pour Nintendo Switch 1, mais d'après le site Insider Gaming, la Switch 2 devrait sortir en juin 2025 et proposerait de nouveaux opus comme un Mario Kart 9 ou encore un nouveau Mario 3D. Autre nouveauté pour vous, on sait déjà que les détenteurs de la Switch 1 devront acheter des cartes virtuelles pour pouvoir accéder à leurs jeux achetés dans la boutique Nintendo et donc ne disposant pas de cartouches sur la Switch 2. Pour rester à jour sur toutes les actualités Nintendo, la marque sort son application Nintendo Today à télécharger sur mobile. Enfin, ne manquez pas le prochain Nintendo Direct qui vous donnera toutes les infos sur la Switch 2 le 2 avril prochain sur YouTube à 15h française.
Et on suivra ça. Merci Jennifer Lufo et bienvenue dans le game. C'est tous les samedis sur RFI. Bientôt 7h30, en temps universel, avant le prochain journal sur RFI, notre reportage culture, du théâtre et aujourd'hui une pièce qui se penche sur une figure récurrente de cet art. Depuis la tragédie grecque, celle de l'enfant sacrifié sur l'autel des puissants, la pièce Terre de Tamara El-Saadi met face à face la mythique Antigone et une enfant placée en France. Terre se joue actuellement au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en région parisienne et Muriel Mahalouf nous y emmène.
Enfant, infant, en latin, signifie celui qui ne parle pas. C'est par cette phrase que s'ouvre la pièce Terre de Tamara El-Saadi sur l'enfance.
La question de la voix de l'enfant qu'on n'entend pas, qui est inaudible, m'a toujours un peu obsédée. La question des silences au théâtre et en soi est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais notamment de l'endroit de l'écoute de l'enfant et aussi de comment on silencie l'enfant. Et quelles sont les conséquences sur l'humanité ?
Deux héroïnes se font face dans la pièce. Eden, une enfant placée, ballottée d'un endroit à l'autre, au gré d'une administration absurde, crie et se débat. Antigone est muette. Son silence est aussi grand que la tyrannie du roi Créon, qui veut l'empêcher d'enterrer son frère Polynice.
Antigone, c'est un personnage qui m'accompagne depuis que je suis adolescente. J'avais l'impression que je la comprenais, quoi. Puis il s'avère qu'elle est restée à nos 14 ans et que moi j'ai grandi. Donc je la regarde maintenant avec mes yeux d'adulte et forcément j'ai plus le même regard sur elle. Et la démarche était de un peu questionner les perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui sur cette figure-là. Et notamment des jeunesses qui sont victimes de ségrégation et d'oppression, à la fois sur le sol français, mais initialement aussi dans les seuls territoires occupés et victimes de colonialisme de l'ère contemporaine, à savoir la Palestine.
Quand ils sont venus prendre ma maison et qu'ils m'ont chassé de Thèbes, j'ai caché la clé. Demain, j'ouvrirai la porte et on rattrapera le temps perdu. On me fait porter la culpabilité d'une histoire qui n'est pas la mienne.
Ainsi, la tragédie d'Antigone est traversée par celle actuelle de la Palestine et de ses enfants massacrés. Et quand les mots lui manquent, Tamara El-Saadi fait appel à la danse.
Le corps et le silence des corps, leur mouvement, en fait, est capable de traduire bien plus que les mots. D'où cette nécessité de travailler avec Sonia Al-Kadir, qui est la chorégraphe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. On travaille ensemble et je dis, voilà, en fait, sur cette scène-là, ce que j'ai besoin de raconter sur ça, ben en fait, j'ai pas les mots, mais toi, tu vas avoir les gestes. Alors, aide-moi. Et c'est comme ça qu'on travaille.
La danse, mais aussi la musique est très présente. Et le chant se mêle au jeu des acteurs, se réduisant parfois à un mot, comme Biladi, mon pays, scandé à l'infini, telle une prière.
Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi, Biladi.
Muriel Mahalouf pour notre reportage culture et cette pièce Terre de Tamara El-Saadi. Bientôt 7h30 en temps universel, le journal dans une minute sur RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi, grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
La France perd de l'influence en Algérie et cela profite à l'Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a un plan pour l'Afrique du Nord. Migration, hydrocarbures, commerce, le courant passe bien d'Alger à Tunis ou à Tripoli. Prochaine étape pour Rome, la Mauritanie.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.